Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
J'ai rencontré la fille de Tsvetaeva à Moscou. Elle m'a complètement subjuguée. Elle m'a terrorisée. Cet être qui était une femme absolument écrasée par sa mère, qui alors a été, mais à mon avis, broyée par le...
Véronique Lesky.
J'aimerais employer le qualificatif de Mandelstam par le siècle broyeur.
Ça peut pas faire de mal.
Et elle m'a dit, lors de notre toute première entrevue, elle m'a dit, vous savez, Marina Tsvetaeva est une sorcière. Elle va vous ensorceler, vous aussi. Prenez garde qu'elle ne vous emmène là où vous ne voulez pas aller.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal. Moscou, mars 1955. Dargaya Mama, chère mère. Je me souviens que toute mon enfance, je vous ai appelé par votre prénom. Comme si ce mot « mère », il m'avait fallu toute une vie pour le prononcer. J'ai 42 ans et j'ose à peine commencer à vivre, après 16 ans de goulag. Mais peut-on jamais oublier ? J'approche de cet âge qui vous a tant pesé, au point de mettre fin à vos jours ce terrible été 1941. Vous étiez à bout de force, contrainte de rentrer en Russie après des années d'errance. 42 ans, c'est l'âge que vous aviez lors de notre grande dispute en 1934. Vous souvenez-vous ? Après la révolution de 17 et la guerre civile, notre famille était condamnée à l'émigration. Paris et ses 14 années de misère. Paris et l'indifférence de l'intelligentsia russe qui vous reprochait votre manque d'engagement politique. Le public français découvrait votre nom, Marina Tsvetaeva. Pro ou anti-soviétique ? Rouge ou blanc ? Qu'importait pour vous ? Seule comptait la poésie. Toute mon enfance, je vous ai vu travailler à votre table avec une discipline de fer. Mais à 20 ans, j'ai cessé de vous admirer. L'idole s'est brisée. Vous étiez devenu despotique. Vous m'imposiez les tâches domestiques qui vous étaient insupportables. Vous me reprochiez de ne penser qu'au dessin et à la carrière d'illustratrice dont je rêvais. Vous me reprochiez de vouloir votre mort en voulant vivre. Vous avez eu ces mots terribles. Cela valait-il la peine de massacrer ma vie pour elle ? Ai-je assez payé en retour avec ma vie massacrée ? Aujourd'hui, après 2 années de procédure, je suis enfin libéré, réhabilité. Mais à quel prix ? Me libérerai-je un jour de cette colère contre vous, contre moi, qui me submerge comme des crises d'une culpabilité infinie ? Me libérerai-je de votre visage qui me hante jour et nuit comme une obsession sans espoir de consolation ? Me libérerai-je de vous qui avez été mon tyran ? Ces mots violents, nourris de sentiments contradictoires, sont ceux d'une lettre fictive, d'un testament imaginaire. Ce sont les mots qu'aurait pu écrire Ariadna Efron à sa mère, la grande poétesse russe Marina Tsvetaeva. Née à Moscou en 1912, Ariadna connaît les grands bouleversements du XXe siècle. 2 guerres mondiales, la révolution de 17, l'exil, puis la terreur stalinienne qui la condamne à 16 ans de déportation. Sa mère, Marina, se suicide de désespoir en 1941. À son retour des camps en 1955, Ariadna a 42 ans. Elle consacre les 20 dernières années de son existence à lutter contre la censure et à faire éditer l'œuvre de sa mère. Lorsqu'elle s'éteint en 1975 à l'âge de 62 ans, Ariadna a sacrifié sa vie à son devoir. Sauver la poésie de Marina Tsvetaeva et la mémoire de sa famille disparue pendant la guerre. C'est ce destin hors du commun que retrace Estelle Gap, et oui, ma collaboratrice depuis 10 ans, dans un livre qui vient de paraître aux éditions des Sirtes et que je vous encourage à découvrir. Son titre, « Je t'aime affreusement », évoque l'amour dévorant qui unit Ariadna à Marina, mais aussi l'amour universel qui fait la complexité des relations mère-fille. Ouvrons cette correspondance à une voix, ce monologue intérieur que l'auteur imagine afin de permettre à Ariadna de raconter sa propre histoire. Car si cette lettre n'a jamais existé, les événements qu'elle relate sont, hélas, bien réels. partons à la rencontre de cette petite fille aux grands yeux bleus qui a vécu dans l'ombre de sa mère, à l'ombre de la grande histoire. Reprenons le fil de cette confession posthume qui s'adresse à Marina Tsvetaeva 14 ans après sa mort. Au-delà de la colère, voici un souvenir heureux qui ressurgit. Nous sommes à Moscou en décembre 1917. Infirmier pendant la Première Guerre mondiale, puis engagé dans l'armée des volontaires contre les bolcheviks, Sergueï Efron délaisse sa femme et ses deux filles, car Marina a donné naissance à un second enfant au printemps 17. Les premiers mois, la petite Irina est confiée à une tante, l'une des deux sœurs de Sergueï, qui leur viendra souvent en aide. Malgré les pénuries, Marina et Arianna survivent tant bien que mal, recluses sous les toits, dans ce qu'elles appelleront leur palais grenier. Les voici dans leur cuisine de fortune. La mère et la fille partagent le même amour de la poésie et du théâtre qui sublime leur quotidien. Regardez-moi, Marina. J'ai 5 ans. Vous m'appelez par mon surnom, Alia. Je suis assise à la table de la cuisine, penchée sur l'un des petits cahiers que vous cousez vous-même pour économiser un peu d'argent. Je vous dévore de mes grands yeux bleus, avides de vous, qui vous effraient parfois. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est dessiner. Des lettres, des mots et surtout nos animaux fétiches. Le lynx pour vous, le lion pour Sergueï. Ce sont vos emblèmes, vos symboles, vos signatures. Nous en remplissons des pages, des lions surtout, pour conjurer le sort, espérant maintenir papa en vie, envers et contre tout. Une nuit, vous me réveillez brutalement. « Alia, est-ce que Sergueï est mort ? Est-ce qu'il est mort ?» Vous me pincez, vous criez. « Non, il est vivant, il faut qu'il soit vivant !» Vous êtes debout en face de moi, vous me tournez le dos. Vous faites la vaisselle à l'eau froide dans l'unique baquet en fer blanc que nous possédons, qui sert aussi pour le bain et la lessive. Vous sentir près de moi me suffit, me comble de joie. Je ferme les yeux pour m'emplir de vous, de votre silhouette à contre-jour, qui se découpe sur l'étroite fenêtre aux vitres ternes, donnant sur l'arrière-cour. Quand j'ouvre à nouveau les yeux, vous êtes toujours là. Miracle. Aurais-je le don de vous retenir près de moi ? Je fais un vœu. Que rien ne nous sépare, mère. Je fixe à nouveau chaque détail de ce décor que je connais par cœur. Mon regard s'arrête sur les pages de journaux qui tapissent le plafond pour en combler les fissures. Je déchiffre quelques gros titres. Abdication du tsar Nicolas II. Gouvernement provisoire. Victoire bolchévique. Et si le ciel nous tombait sur la tête après tous ces orages ? Ce n'est pas possible, voyons. Ce ne sont que des phrases, des paragraphes bien alignés, gonflés d'encre et de poussière. J'aime parcourir cette coupole de papier, ce labyrinthe de lignes qui s'entrecroisent au-dessus de nous. Malgré la saleté, notre cuisine est un temple sacré dédié au culte des mots. Vous m'obligez à un exercice exigeant, écrire chaque jour une page de mon journal intime. Je serre mon crayon, j'attends l'inspiration, je vous regarde encore et encore, je fais durer cet instant suspendu entre nous, l'un de ces rares moments où je vous ai tout à moi. Ces instants précieux où nous ne courons pas les rues enneigées en quête de pommes de terre gelées, où nous n'allons pas au théâtre suivre les répétitions de vos amis. Nous voilà enfin seuls, en tête à tête, réunis dans la chaleur de la cuisine près du samovar bouillant. Je serre mon crayon plus fort encore. J'ai tellement peur du moment où vous allez vous fâcher, où tout va basculer. Car je le sais, vous jouez ce rôle de ménagère à contre-cœur, ce rôle humiliant qui vous éloigne de votre seule ambition, l'écriture. Regardez-vous, Marina. Vous qui adorez le théâtre, avec votre robe grise et vos bagues d'argent, vous entrez en scène dans ma vie pour ne plus jamais en sortir. Vous allez vous retourner comme une tragédienne prépare sa réplique et je vous applaudirai. Je réclame qu'on m'aime aujourd'hui comme on m'aimera dans 100 ans. Vous êtes jeune, belle, éternelle. Vous défiez le monde de votre mépris éclatant. Vous êtes mon héroïne. Plus lumineuse que ces actrices que vous admirez, Sarah Bernhardt, Sonia Holliday, Sophia Parnok, ces étoiles filantes dans votre cœur. Moi, je vous aime pour toute la vie. Mais la vie n'est pas une pièce de théâtre et la situation matérielle s'aggrave. De 1918 à 1920, la guerre civile et la grande famine font des milliers de victimes. À Moscou, les files d'attente s'allongent devant les épiceries vides. Sans ressources, Marina Tsvetaeva vend ses derniers livres de valeur et scie ses meubles pour en faire du bois de chauffage. Au cœur de l'hiver 1919, la poétesse ne parvient plus à nourrir ses enfants. Elle se résigne à se séparer de ses deux filles, âgées de 7 et 2 ans. Des années plus tard, Arianna découvre la tragédie qui se cache derrière l'épreuve de l'orphelinat. À sa libération, Ariana est accueillie chez sa tante, dans un petit logement communautaire de la rue Merdiakov, où elle occupe un couloir exigu. Elle dort sur un vieux coffre en bois qui referme les archives de sa mère. Elle se plonge dans la lecture des carnets de Marina comme un voyage dans le temps, en quête de sa propre histoire, en quête du souvenir de sa sœur. Irina était une enfant différente, souffrant sans doute d'une forme d'autisme que l'on ne savait pas encore diagnostiquer à l'époque. Moscou, novembre 1956. Depuis mon retour, je n'ai qu'une idée en tête. Venir à bout d'une obsession qui m'a hanté toute ma vie. Retrouver dans vos manuscrits les passages qui concernent ma petite sœur. Tenter de mettre en mots ce qui n'a jamais été dit. Me rapprocher de celle qui fut pendant 2 années et pour toujours mon double, mon mystère, ma blessure. Je découvre soudain de votre main des détails bouleversants. C'était au début de l'hiver 1919. À la cantine populaire, vous recevez une seule ration de soupe pour vos 2 enfants. Une soupe insipide, faite d'eau bouillie et d'épluchures de pommes de terre. Laquelle de vos filles nourrir, l'aînée ou la cadette? La plus robuste ou la plus fragile? Une mère peut-elle faire le choix de l'une et condamner l'autre? C'est pourtant ce que vous faites. Vous l'écrivez noir sur blanc. Irina est plus petite et plus faible, mais j'aime plus Alia. Avez-vous conscience à ce moment-là d'obéir à la loi de la nature la plus violente, la plus tyrannique, la loi du plus fort? Je tremble en reprenant la lecture de vos carnets. L'écriture était tout pour vous. Étrangement, Irina échappait à votre pouvoir de magnifier la vie par la poésie. Elle vous inspirait des mots durs. J'étais votre miracle, elle était votre démon. Vous m'aduliez, vous la délaissiez. Votre indifférence devenait maltraitance. Vous aviez pris l'habitude d'attacher Irina à sa chaise chaque fois que nous sortions. Je lis bientôt cette phrase que vous m'adressez par-delà le temps et qui me foudroie. Alietchka, n'oublie pas, je t'aime, je n'aime que toi. Quelques pages plus loin, vous évoquez l'orphelinat. Vous prenez soudain conscience de l'ampleur du désastre, une faute impardonnable qui vous tourmentera le reste de votre vie. Vous comprenez trop tard les conséquences de votre choix. Vous êtes venu me chercher, moi, votre enfant merveille. Vous m'avez soigné, guéri de la malaria. Vous avez laissé Irina, l'enfant du hasard, errant seule dans les couloirs sombres. Je revois son petit visage dodelinant, fredonnant. Aïe, dou, 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 dou. Toujours ce même refrain, lancinant, qui ne me quittera plus. Je la revois vous appelant sans cesse, se frappant la tête contre les murs. Un mois plus tard, le 15 février 1920, Irina meurt de faim. Vous n'assistez pas à son enterrement. Vous préférez rester à mon chevet. Est-elle ensevelie dans sa robe rose, trouée et salie? Vous ne savez rien de ses dernières souffrances. Je savais votre amour surhumain. Je le découvre inhumain. Je savais votre amour monstrueux, à la fois démesuré et merveilleux, comme l'hubris grec, qui vous caractérise si bien. Savez-vous que l'hubris était un crime dans l'Antiquité? La démesure vous rendait coupable de lèse humanité et vous rejetait hors de la société des hommes, vous condamnant à l'exil. À présent, je deviens monstre à mon tour. Moi, l'enfant bien portante, j'ai pris toute la place. Moi, l'enfant ogre, je lui ai ôté la nourriture de la bouche. Vous êtes-vous jamais demandé comment j'ai pu vivre pendant toutes ces années avec le sentiment inconscient de lui avoir volé la vie, avec la sensation d'une ombre qui ne cesse de me suivre, d'une ombre qui réclame sa part de lumière? Et pour quelle existence? 16 ans de goulag suffiront-ils à payer ma double faute, celle d'avoir survécu par 2 fois à l'horreur, la famine puis les camps? Pauvre Irina, morte de faim et de manque d'amour. Est-ce pour expier ton absence, Irina, que je n'ai pas eu d'enfant?
Скрыла жилы, неостановимо, невосстановимо хлещет жизнь.
Поэма de Марина Цветаева.
Подставляйте миски и тарелки, всякая тарелка будет мелкой. Je m'ouvre les veines, irrécupérable et ingarotable. La vie coule à flot. Mettez au-dessous assiettes et seaux. Toutes les assiettes seront toujours plates, petits les seaux. À côté, débordant, sur la terre noire, nourrir la fougère. tombe, irréversible, irrécupérable et ingarottable, l'averse des vers.
О путях твоих пытать не буду, милая, ведь все сбылось. Я был босс, а ты меня обула. Ливнями волос и слез не спрошу тебя, какой ценою. Эти куплены масла, я был наг, а ты меня волною. Тело как стеною обнесло. Я был прям, а ты меня наклону. Нежности наставила припав. В волосах своих мне яму вырыл. Мироносится, к чему мне мира? Ты меня омыла, как волна.
Laissons la vie reprendre le dessus et avançons dans le destin de la famille Tsvetaeva Efron. Un an après la mort d'Irina, Marina reçoit enfin des nouvelles de son mari, Sergueï Efron. Il est vivant, réfugié en Tchécoslovaquie. C'est le début de l'exil. La famille vit pendant 4 ans dans la campagne des environs de Prague, où naît en 1925 un troisième enfant, un garçon surnommé Moore. L'enfant merveille détrône Arianna qui devient aux yeux de sa mère une fillette ordinaire. Mais c'est à Paris où la famille vit pendant 14 ans dans la pauvreté que les relations entre la mère et la fille se dégradent. C'est bientôt la rupture, violente et définitive. Regardez-nous ce jour d'automne 1934. J'ai 22 ans. Je ne supporte plus de jouer les nounous et les domestiques. Pour aider notre famille, je sacrifie mes études de dessin. Je trouve une modeste place d'assistante dans un cabinet dentaire. À nouveau, votre égoïsme me glace. Tu me condamnes avec ton emploi à ne pas écrire. Pense-y. Vous me menacez. Si tu choisis le travail, tout est fini entre nous. Je rétorque, et vous, Marina? Y avez-vous réfléchi? Vais-je passer ma vie à travailler chez vous comme femme de ménage? Ce jour de septembre, le ton monte. Puis les injures, monstrueuses, roulures, salopes. Comment ai-je pu prononcer ces mots hideux? Comment en sommes-nous arrivés là? Après des études inachevées, des dons contrariés, je ne sais quel sens donner à ma vie. Je n'arrive pas à gagner mon indépendance, à m'épanouir dans une existence d'adulte. Un soir, vous vous absentez à l'occasion de l'une de vos lectures publiques que vous organisez tant bien que mal. Je reste seul face à mes échecs, face à votre intransigeance, face à votre déception si lourde à porter. La petite fille ordinaire est devenue une jeune femme plus médiocre encore. Ce soir-là, je décide d'en finir. Je m'enferme à la cuisine et ouvre le bouton du gaz. L'odeur âcre me prend à la gorge. J'ai le sentiment d'étouffer. Chaque inspiration me brûle les poumons. Je tousse, crache du sang, comme lorsque j'étais enfant à l'orphelinat. J'entends le sifflement aigu du gaz qui m'insuffle son poison invisible. Suffocante, délirante, je crois vous voir, Marina, dans votre éternelle robe grise, me tournant le dos. Je me revois, petite fille, attablée devant mes cahiers et mes crayons à dessin, implorant que rien ne nous sépare, mère. Puis je vois une ménagerie défiler devant mes yeux, un tigre, un lynx, un lion. Et soudain, comme par enchantement, papa est là devant moi, en chair et en os, mon papa invincible. Par un hasard inouï, il est rentré plus tôt que d'habitude. Il se précipite auprès de moi, ouvre grand la fenêtre, il me sauve la vie. Ce soir-là, papa me parle pour la première fois de son engagement pro-soviétique. Surtout, il me transmet son espoir en une vie meilleure dans la nouvelle Russie. Il a déjà fait une demande de passeport et n'attend que le miracle de vous convaincre. À cette période, vous me trouvez malade, amaigri, mais vous ne soupçonnez pas mon acte désespéré. Vous ne comprenez pas. Lorsque je me porte mieux, papa m'invite à m'installer à Paris dans une petite chambre, au 12 rue de Bussy, propriété de l'Union pour le rapatriement, où il est employé comme rédacteur en chef de la revue Notre Union. Papa accepte que je travaille auprès de lui, d'abord comme illustratrice et traductrice. Puis il me confie le secteur jeunesse de l'association. J'organise des projections de films, j'écris, je joue et mets en scène des pièces de théâtre. Enfin, je fréquente des jeunes gens de mon âge. Je me sens utile. Je ne vois pas que toute cette animation culturelle est au service de la propagande soviétique. Au fond de moi, une certitude grandit. C'en est fini du grand roman maternel. Ici commence le roman du père. Ce père absent pendant toute ma petite enfance réapparaît enfin dans ma vie pour y prendre toute sa place. Je ne sais pas encore qu'il s'agit d'un terrible roman d'espionnage. Au printemps 1937, il y a tout juste 20 ans, je décide de quitter la France définitivement. Sur les quais de la gare, ce 15 mars, vous m'offrez un magnifique cadeau d'adieu, Marina, un gramophone. Comment vous êtes-vous procuré une telle merveille ? Autour de moi, des amis me couvrent de présents. Je pars avec une valise remplie de vêtements neufs. Je n'ai jamais eu autant de toilettes. Quand retentit la sonnerie du départ, ce bruit qui vous engourdit instantanément comme une grosse gorgée d'eau glacée, vous me serrez soudain dans vos bras. Après tant d'années de tension, je suis étourdi, bouleversé par ce débordement de tendresse. J'essaie de contenir mon émotion. Nous y voilà. Ce moment que j'appréhendais, petite fille, dans la cuisine de la rue Boris et Gleb, cet instant crucial comme un rendez-vous avec le destin où le monde familier bascule dans l'inconnu. Cet instant où je trahis mon vœu le plus cher, ma prière enfantine. Que rien ne nous sépare, mère. Cette minute de la séparation, paradoxale, tant redoutée dans le passé, est désormais tant désirée. Vous me glissez un petit billet dans la main, votre ultime présent, trop vide, perdu dans le chaos à venir. Une seule phrase écrite au crayon. L'être humain est partout et toujours ce qu'il y a de plus important. Ce jour-là, je vous abandonne à votre sort. Sans le savoir, sans le vouloir, je précipite les événements qui briseront notre famille. À Moscou, Ariadna croit enfin en une vie indépendante et insouciante, alors que les procès staliniens font leur première victime. Et que la terreur se répand, menaçant bientôt sa propre famille.
Vous êtes là pour une raison très grave. C'est le parti qui a ordonné votre arrestation. Nous sommes chargés de vous interroger.
Employé par l'ambassade russe à Paris, Sergueï Efron se révèle être un agent secret du NKVD, l'ancêtre du KGB. Impliqué dans une affaire d'assassinat politique, Sergueï est exfiltré et rapatrié d'urgence à Moscou en septembre 1937. Malade et affaibli, il est placé sous surveillance dans une maison de banlieue où Ariadna lui rend souvent visite. Deux ans plus tard, en juin 1939, il est rejoint par Marina Tsvetaeva et leur dernier fils, eux aussi expulsés de Paris par les services soviétiques. Mais les retrouvailles sont d'autant plus difficiles qu'ils partagent leur logement avec un autre couple d'expatriés, eux aussi en résidence surveillée. L'ambiance est lourde de non-dits. La menace plane sur ces Russes émigrés considérés comme traîtres à la patrie. Cet été 1939, nous connaissons un court répit, notre dernier séjour en famille. Nous nous rendons ensemble à Moscou pour visiter l'exposition agricole qui vient d'ouvrir ses portes. J'arbore avec fierté le foulard que vous m'avez offert lors de votre arrivée, un foulard rouge avec des petits personnages que vous aviez achetés à Prague. Est-ce un symbole, celui de notre famille enfin réunie, comme en Tchécoslovaquie ? C'est l'image que vous garderez de moi avec ce foulard rouge sur la tête lors de mon départ. Regardez-moi, Marina, j'ai bientôt 27 ans. Je suis une femme épanouie, travailleuse, fidèle à ses convictions. Mais le 27 août, à l'aube, Une voiture noire se gare devant la datcha. Les corbeaux viennent m'arrêter. Sans un mot, ils procèdent à la perquisition réglementaire, fouillent partout, déchirent les pages des livres où figurent des dédicaces compromettantes. En silence, je cherche mes papiers, rassemble mes affaires. De la chambre contiguë, vous me regardez, Marina, les yeux fixes, stoïquement assise sur le bord du lit. Je ne vous dis pas au revoir. « Tu nous fais mal tes adieux, Alia, » murmurez-vous, le visage livide. « Je reviendrai bientôt, il ne faut pas se dire adieu, » dis-je fièrement en cachant mes larmes. « J'ignore que c'est la dernière fois que je vous vois. » À la prison de la Lubyanka, après les photographies et les empreintes d'usage, je n'arrive toujours pas à y croire. Il doit s'agir d'une erreur, un simple malentendu. Mais ma détention se prolonge, les interrogatoires se succèdent. Ils commencent au milieu de la nuit et durent entre 2 et 15 heures d'affilée.
C'est une affaire internationale d'espionnage et de trahison contre l'Union soviétique. Votre devoir est d'aider à l'établissement de la vérité. Vous n'êtes pas seul en cause. D'autres personnes, haut placées, sont impliquées dans cette affaire. Vous seul pouvez vous sauver.
Je refuse de parler, alors on exige de moi des déclarations écrites. Je n'écris pas ce qu'il faut, alors on me fait lire d'autres versions, déjà tapées à la machine, qu'on m'oblige à signer. On me frappe à coups de matraque en caoutchouc, un traitement de faveur pour les femmes. Puis, une semaine entière, on m'enferme dans un cachot spécial, la chambre froide.
Marchez ! Défense de vous asseoir ! Défense de rester immobile ! Marchez !
Lorsque j'en sors, le cœur bleui et contracté de douleur, je suis escorté dans la cour de la prison, où les yeux bandés, on me place dos au mur. Un gardien s'approche et me murmure « Et si je tirais dans la nuque, ce serait plus rapide ?» Quasi indolore. Après le froid du cachot, je ressens soudain une vague de chaleur envahir mon corps. J'ai la sensation d'étouffer. Soudain, une autre voix hurle l'ordre de tirer. Je crie. Lorsque je comprends que les soldats ont tiré en l'air, je perds connaissance et m'effondre sur le sol. M'a-t-on ramené ensuite dans une cellule ? Est-ce quelques minutes ou des heures après ce simulacre d'exécution ? Lorsque je reprends conscience, je suis assis à un bureau, une lampe braquée sur les yeux. L'un de mes bourreaux ironise. « Voyons, Ariana Efron, dans quel état vous mettez-vous ? Vous avez de si jolis yeux !» Devant les nouvelles exigences de mes interrogatoires, je devine que le tour de papa est arrivé. En effet, Sergueï est arrêté le 10 octobre 1939. Je ne le reverrai jamais. Je subis de nouvelles séances de matraquage, de nouveaux interrogatoires au milieu de la nuit. Abruti par les coups et le manque de sommeil, je finis par signer de faux aveux qui accablent papa, l'accusant d'être un agent double au service de la France. Papa et moi sommes condamnés en tant qu'ennemis du peuple, coupables de contre-espionnage. Pour moi, 8 ans de travaux forcés. À l'issue de cette première peine, je serai à nouveau arrêté et condamné à la déportation à perpétuité. Papa apprendra sa sentence 1 an plus tard, en juillet 1941, la condamnation à mort. Pauvre Sergueï. Pauvre Papa Léon, que je croyais invincible. Lui qui voulait racheter ses erreurs de jeunesse, son engagement dans l'armée blanche, s'est révélé d'une grande force morale pendant les interrogatoires. Il n'a pas cédé. Il vous a sauvé, Marina, de ses dernières forces, affirmant que vous ignoriez tout de ses activités. Il a résisté pendant 2 ans jusqu'à en devenir fou. Papa errait dans les couloirs en proie à des hallucinations. Il croyait entendre des voix. L'une lui disait que vous étiez morte, Marina. L'autre récitait le titre d'un de vos poèmes secrets, un poème inédit que vous seul connaissiez. Vous qui étiez volontiers sorcière, mère, l'avez-vous soufflé, comme par magie, à l'oreille de Sergueï ? Pour consoler le grand garçon que vous avez toujours aimé, toujours protégé. Papa est mort en entendant votre voix, Marina. Mais a-t-il pensé un seul instant qu'il mourrait de la main de sa fille ? Quelle pire torture pouvais-je connaître ? J'ai condamné mon père à la mort, et je n'ai pas su empêcher la vôtre, Marina. Vous vous suicidez 2 mois avant la mort de papa, le 31 août. Voilà cette culpabilité infinie qui n'en finit pas de me ronger et que je porte au plus profond de moi. Je suis damné, voué à la mort des miens. Pourrais-je un jour me pardonner ma lâcheté, ma trahison ? Pendant 15 ans, j'ai ressassé ma faute. Pendant 15 ans, vos visages m'ont hanté, m'apparaissant la nuit, m'appelant le jour. À ma libération, j'ai aussitôt ouvert un dossier en réhabilitation au nom de Sergueï Efron. Mais cette démarche suffira-t-elle à apaiser ma conscience ? Que peuvent des volumes de procédures administratives contre des abîmes de désespoir ? Dans vos carnets, Marina, je retrouve une lettre que j'avais écrite à papa. Elle est datée du 27 novembre 1918. J'avais 6 ans. De l'autre bout de la vie, voici que mes mots d'enfant résonnent comme une oraison funèbre. « Cher papa, je vous garderai dans ma mémoire infiniment longtemps. Il y a au-dessus de moi tout un abîme de mémoire. J'aime beaucoup le mot abîme. Il me semble qu'il existe des gens qui vivent au-dessus de l'abîme et ne meurent pas dans la tempête. »
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Marianna n'apprendra la mort de son père qu'à son retour de déportation en 1955, soit 14 ans après les faits. Remontons dans le temps et découvrons dans quelles circonstances elle pressent la mort de sa mère. Nous sommes à la fin de l'été 1941. Arianna purge sa peine de travaux forcés dans le Grand Nord, au bord du cercle polaire, au camp de Rakpas, un lieu lugubre dont le nom signifie « nid de corbeau ». Comme elle en a le pressentiment lorsqu'elle était enfant à l'orphelinat, elle reste tout au long de sa vie d'adulte hantée par la présence de sa mère. En 1941, l'URSS est envahie par les troupes allemandes et la population civile de Moscou est évacuée dans la région tatare, à 1000 km de la capitale. C'est dans le village d'Elabouga, où elle peine à trouver un logement et de la nourriture pour son fils de 16 ans, que Marina perd tout espoir. Regardez-moi, Marina. J'ai 29 ans. Je semble déjà si vieille. Ployant sous le poids de la culpabilité et des regrets, je travaille à la chaîne dans un atelier de couture. Nous fabriquons des jouets de chiffon qui sont la fierté de l'artisanat soviétique. Un jour, au milieu du brouhaha des machines, j'entends un appel. « Alia !» Alia, je réponds, cherche du regard qui peut bien m'appeler. Je sens une présence, quelqu'un qui me chuchote à l'oreille. Alia, Alia. Je n'ai compris qu'un an plus tard, quand j'ai su. C'était la fin de l'été. au moment où vous décidiez d'en finir. Depuis un an déjà, vous pensiez au suicide, cherchant du regard le crochet où vous pendre. Vous m'appeliez au secours. Vous étiez si proche, j'étais si loin. Mère, je vous revois errer dans le village des Labouga. Je reconnais votre silhouette frêle, votre visage carré aux cheveux blancs. Vous portez toujours votre robe grise et vos bagues d'argent. Vous êtes étincelante, comme l'héroïne de mon enfance. Vous apparaissez telle une étoile dans mon ciel noir. En cette nuit fatale, je voudrais tenir votre main, vous retenir sur le chemin de la vie, suspendre encore un peu le cours des événements, avoir le temps de vous demander pardon, d'avoir gâché cette vie que vous m'aviez offerte au prix d'un sacrifice monstrueux. Je vous vois près de moi, je vous parle comme je ne l'ai jamais fait. J'essaie de toutes mes forces de vous retenir de l'autre côté de la rive. Je vous dis que je n'ai jamais eu le temps ni le courage de vous dire que je vous aime, que j'ai grandi à l'encre de vos mots, que vous m'avez nourri d'un amour sublime et insensé, un amour démesuré et solitaire que j'ai mis toute une vie à comprendre. Oui, il m'a fallu toute une existence d'épreuves et de labeurs, d'isolement infini, pour saisir enfin ces mots de Rilke. L'amour naît longtemps et jusqu'au large de la vie que solitude, solitude toujours plus intense et plus profonde.
Vous rencontrez Ariadna et Frone en 1955. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous l'avez vue?
Oui, parce que j'étais...
Irina Emelianova.
L'avons entendue, bien sûr. Elle avait, à mon avis, très belle, avec les yeux profonds, vous savez, de couleur de lac. Malgré tous ses travaux de galère, elle s'est tenue très droit. Le dos était très droit. Et la tête, toujours en arrière, comme ça. Elle a très vite vieilli, vous savez, cette... Et très tôt. Mais quand elle est rentrée, elle a visité le médecin à Moscou et le médecin lui a dit qu'il vous avait le cœur d'une femme 80 ans. Et elle avait 43. Le cœur est fatigué, absolument fatigué.
Lorsqu'elle apprend la mort de sa mère un an après le drame, Ariadna ne verse aucune larme et s'enferme dans le silence. Le chagrin éclatera 20 ans plus tard. Tout au long de son exil, Ariadna trouve réconfort dans la correspondance avec le grand amour platonique de Marina Tsvetaeva, l'écrivain Boris Pasternak. À son retour, Ariadna fréquente Pasternak et sa famille illégitime, sa compagne Olga Ivinskaya et la fille d'Olga, Irina Emelianova, qui deviendra une amie intime. Auprès de ces deux femmes qui ont inspiré les personnages de Lara et Katia dans Le Docteur Jivago, qu'Ariadna retrouve la chaleur d'une famille avant de connaître une nouvelle séparation. Je croyais avoir épuisé toute la souffrance possible. Mais il en est une que je n'avais pas encore connue, accompagnée dans la mort un être aimé. C'était au mois de juin, les cerisiers étaient en fleurs et une procession infinie accompagnait notre cher Boris au cimetière de Peredelkino. 2 ans après l'affaire Jivago, 2 ans après le scandale de la publication en Occident du grand roman de sa vie, Boris s'est laissé mourir de chagrin. Il avait dû renoncer au prix Nobel, à la consécration de son œuvre. Il m'avait fait parvenir une copie de son manuscrit en secret. Comme j'avais aimé l'image de ce train, au lointain, emportant tant de destins brisés. Le train de nos vies perdu dans l'immensité russe. J'ai pensé à papa, lui aussi embarqué dans le train de l'histoire, sur des chemins de traverse qui l'ont conduit dans une voie sans issue. Il avait sauté dans le premier wagon en marche sans réfléchir, comme un enfant en mal d'aventure. Le 1er juin, veille de l'enterrement de Boris, je fuis la foule qui s'est réunie devant la grande datcha. Plus de 5000 personnes à ce qu'on dit. Je refuse d'assister aux obsèques. Je ne peux soutenir la vision de Boris, immobile, revêtu du costume gris de son père. C'est au-delà de mes forces. Je n'ai jamais enterré aucun membre de ma famille. Marina, Sergueï, Mour, Irina, vous n'avez pas de sépulture. Vous avez disparu subitement sans que je n'en sache rien. La mort n'existe pas puisque vous êtes tous vivants en moi. Il ne peut en être autrement. Ce jour-là, l'air est étouffant. L'orage menace. Je crois étouffé, d'impuissance et de rage. Ne suis-je pas parvenu au bout de mes forces? N'ai-je pas le droit pour une fois de baisser la garde, baisser les bras? Souviens-toi, Alia, si tu baisses les bras, on te fracassera la tête. Oui, la mort de Boris m'a fracassé la tête. Pour la première fois, je suis anéanti. Je titube. Je ne tiens plus en place. Je dois partir. Dans la précipitation, Irina, la belle Irina, m'accompagne à la gare. Sur le trajet, nous croisons des centaines d'anonymes, étudiants, paysans, villageois, venus rendre hommage au grand poète. Mais dans l'autre sens, le quai est désert. J'entre dans un compartiment inoccupé. Je m'installe au milieu de mes paniers remplis de victuailles. C'est à ce moment précis, au moment où je m'assois, que je prends soudain conscience de l'absence, de l'immensité du silence, bordé au loin par la rumeur fiévreuse de la foule. J'éclate en sanglots, de longues larmes que je tente en vain de retenir. Je pleure pour la première fois de ma vie. À travers mes larmes d'adulte, je me sens redevenir petite fille. Quelques jours plus tard, je regarde la photographie des obsèques de Boris, cette célèbre photographie qui a fait la une de la presse mondiale. Aux côtés d'Olga, penchée sur le cercueil recouvert de fleurs au milieu de la foule compacte, il y a cette jeune fille, blonde, anonyme, qui prie. Je pense à la petite Katia, la fille de Lara, dans le Docteur Jivago. Je pense à cette lettre que j'avais écrite à Boris juste après la lecture de son manuscrit. Déjà petite, je pensais, où s'en va donc le passé? Comment est-ce possible? C'était et ce n'est plus et ce ne sera plus. Pourtant, cela était assurément. Elle a existé, cette autre petite fille semblable à moi qui se trouvait sur cette terre et qui demandait à ce même ciel « Mais qu'est donc devenu le passé ?»
Alia, poème de Marina Tsvetaeva.
Où tu es, où je suis, je ne sais. Même chant et même souci. Nous sommes toutes les deux si amies, toutes les deux si délaissées. Qu'il nous est doux d'être ensemble, sans foyer, sans sommeil, esselés. Deux oiseaux, sitôt levés nous chantons, deux errantes. Nous vivons de mendicité. Toutes les deux, nous allons d'église en église, dans les grandes et les petites, paroissiales. Toutes les deux, nous allons de maison en maison, dans les pauvres et les riches, seigneuriales.
En septembre 1960, Olga et Irina sont arrêtées et envoyées en camp. Ariana vit alors dans une petite chambre dans le quartier des Écrivains à Moscou. Elle travaille à des traductions et prépare un premier recueil des poèmes de Marina Tsvetaeva qui paraîtra l'année suivante. Mais après le départ de ses amis, comme on disait prudemment à l'époque, Ariana souffre d'insomnie. La voici au milieu de la nuit. Elle ouvre la fenêtre et s'allonge sur son lit. Les yeux grands ouverts dans la pénombre, elle sent l'air frais lui caresser le visage. Elle écoute le murmure du vent dans les sabres au dehors. Peut-être finit-elle par s'endormir. Alia, mon miracle, la moitié de ma vie. Pourquoi le destin a-t-il voulu que toi seule, de mes trois enfants, me survive? Toi seule, Ariana, a trouvé la sortie du labyrinthe. Peut-être ai-je toujours su que tu traverserais le temps et les épreuves et que tu ne m'oublierais pas. Ne suis-je pas un peu sorcière? Je voudrais pouvoir te consoler, te dire que j'ai attendu Sergueï, que je l'ai entendu. Mon tendre Serioja, que j'ai blessé de mes infidélités réelles ou fantasmées, il s'est éloigné de moi sans me quitter, mais pour épouser la pire des causes, celle de sa famille idéologique, une famille qui a fini par nous étouffer et nous broyer. Toute ma vie, les êtres que j'ai aimés se sont détournés de moi. Sonia Holliday, Sofia Parnok, Rainer Maria Rilke, Konstantin Rodzevich et Boris Pasternak, que j'ai adoré par-delà les frontières. Lui aussi m'a délaissé. Hommes et femmes, je les ai tous effrayés par mon désir d'absolu, mon intransigeance avec la réalité. Ils n'ont pas vu que mon amour démesuré était un appel au secours. J'ai provoqué les défaites pour mieux me sentir vivre, pour vibrer dans le malheur comme une tragédienne. Le théâtre n'a pas voulu de mes pièces, alors je me suis mis en scène moi-même. Tu étais ma seule spectatrice, Alia, mais ton regard me sublimait. Enfin, je devenais Sarah Bernhardt. Amputé de mes enfants, je clamais plus fort ma douleur, j'exacerbais ma poésie. Tu as raison, Alia. J'ai abandonné mes enfants pour mes cahiers. J'ai défié l'existence pour l'immortalité. J'ai perdu la vie pour l'avoir méprisée. Toi seul savais me donner l'amour dont j'avais besoin, un amour absolu au-delà des mots. Nous étions l'une pour l'autre des idoles de papier. Oui, cet amour était monstrueux, presque incestueux. À trop nous étreindre, nous avons inversé les rôles. Tu étais mère et j'étais fille. Aujourd'hui, tu vas accoucher de mon œuvre. Toi seul as vaincu cette fascination, cette fatalité de l'échec qui m'a mené à ma perte. Alia, chérie, je suis venu te dire mon dernier secret. Oh, rien de sensationnel. Rien qui puisse réparer mes fautes. Je suis impardonnable. Mais sache qu'avant de mourir, dans la boue des Labouga, j'ai pensé à toi, mon enfant miracle. C'était comme une prière. Sur le sol de la datcha, j'ai dessiné un lion, l'emblème de Sergueï, symbole d'obstination. À côté, j'ai dessiné un lynx, symbole de lucidité, qui était devenu ma signature, à moi qui n'ai fait que m'aveugler toute ma vie. Et à côté encore, j'ai dessiné une panthère, pour toi, Ariana, qui a mené tant de combats. Et un chaton, pour Irina, en souvenir de son petit minois. Et un tigre, pour Moore, l'intrépide. Quelle famille de fauves nous formons, affamés et pitoyables. J'ai pris le temps de vous regarder, de vous aimer une dernière fois. Nous voilà tous réunis dans l'empreinte de la poussière. Ces dessins éphémères, je suis venu te les confier, toi qui es notre mémoire. Prends bien soin de leurs souvenirs. Ce sont nos animaux totems, les emblèmes de notre famille. Une dernière chose, ma petite Alyushka. Et puis je partirai comme je suis venu, sans bruit, dans la nuit. Je me souviens d'une scène entre toi et Tante Vera dans notre petit grenier de la rue Boris et Gleb. Tu avais 5 ans. Tante Vera te disputait car tu lui avais dit « je t'aime affreusement ». J'étais intervenu pour prendre ta défense. Oui, on peut aimer affreusement, Aliatchka. C'est plus et mieux que simplement aimer. Alia chérie, sache que je t'ai aimé par-dessus tout, même mal, même d'un amour dévorant. Je t'aime affreusement, pour l'éternité. Ya tibia ujas na lupio. En conclusion, avançons dans le temps jusqu'au dernier souffle d'Ariana. Voici les derniers mots que la fille adresse à sa mère par-delà le temps. La colère a enfin fait place à l'apaisement et au pardon. Taroussa, juillet 1975. Chère mère, Daragaya Mama, 15 ans ont passé depuis votre apparition, que j'ai sans doute rêvé à force de l'espérer. Je ne quitte presque plus Taroussa, la ville lumineuse de votre enfance. J'ai eu envie de m'installer là où vous avez vécu, heureuse. Vos poèmes sont enfin édités. J'y ai consacré toutes mes forces. Je vais bientôt mourir. Je m'apprête à vous rejoindre, Marina. Je le sais car je vous vois près de moi pour la 3e fois. Comme je parais vieille à côté de vous. Oui, le destin a inversé les rôles. Je suis mère et vous êtes fille. Vous êtes là en chair et en os, comme ce fameux soir de 1960, comme ce soir plus lointain encore d'août 1941. Vous êtes telle que vous étiez à l'instant de votre suicide. Je reconnais votre silhouette frêle et votre visage carré encadré de cheveux blancs, le regard toujours aussi aigu, aiguisé comme un défi au monde. Vous n'êtes plus jeune, mais toujours belle, éternelle, avec votre robe grise et vos bagues d'argent, telle que vous m'êtes apparue dans ma petite enfance lumineuse comme une héroïne de théâtre. C'est le dernier acte de notre histoire. Vous êtes venu me chercher, je le sais. Comme il y a plus de 50 ans, vous étiez venu me chercher en pleine tempête de neige pour me sauver de l'orphelinat. Je vous entends murmurer « Alia, mon miracle, la moitié de ma vie !» Et les mots de Rilke alors me reviennent en mémoire. Ne vous resterait-il pas toujours votre enfance, cette précieuse, cette royale richesse, ce trésor des souvenirs ? Marina, j'ai tenu ma promesse. Vous m'avez donné la vie, je vous la rends au centuple. Je vous ai fait don de la postérité, l'éternité des écrivains.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia avec Olivier Dupré à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gap, Fanny Leroy et Claire Tessert. Je rappelle que le livre « Je t'aime affreusement » est publié aux éditions des Sirtes avec des lettres inédites de Marina Tsvetaeva et une postface d'Irina Emelianova. Estelle Gap vous donne rendez-vous pour une lecture dédicace le vendredi 5 avril à 19h à la librairie L'écume des pages à Paris. Bonne soirée et à la semaine prochaine.